S'il est vrai que la pensée présuppose une image de la pensée, n'y a-t-il pas et sous quelle forme une rencontre entre l'image, une rencontre, pas une identification, une rencontre entre l'image de la pensée et l'image cinématographique? Voyez, mon point de départ est extrêmement simple. Toute pensée présuppose une image de la pensée. Dès lors, quelle rencontre y a-t-il, s'il y en a une, entre l'image de la pensée et l'image cinématographique? C'est à partir de là que nous pouvons construire notre programme. Et vous voyez déjà ce que je voudrais de vous, ce qu'on n'a pas fait les autres années. Je sais bien que les autres années, moi, je trouve que ça marchait bien. Surtout, par exemple, l'année dernière, il y a eu de très bons moments pour moi. Parce que certains d'entre vous ont beaucoup apporté. Hein. Par exemple, je pense à ce qu'on a fait sur le cristal. Ou ça, bon... Moi, je vous suggère, je sais que d'autre part, je suis très difficile à interrompre, parce que quand on m'interrompt, je perds mes idées. Alors, je ne sais plus ce que je dis, tout ça. Alors, ce n'est pas facile pour vous, même quand vous avez envie. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est m'interrompre, vous en avez évidemment, je vous demande toujours de le faire, quitte à le recevoir avec impatience, mais tant pis. Ah ! Il faut le faire. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est au début de chacune de nos séances, si on n'est pas trop bousculé par les changements de salle, au début de chacune de nos séances, que ceux qui ont quelque chose à dire sur la séance précédente le fassent. Mais ce que j'aimerais, c'est que certains d'entre vous disent « Ah ben, il y a tel point de la dernière séance où là, c'était pas clair, où il faudrait revenir. Il faudrait revenir sur tel point. » On irait peut-être moins vite, mais ce serait peut-être plus riche. Alors, si ça vous agréait, on pourrait concevoir comme ça une espèce de... Ce serait au début des séances que se reposeraient des questions. Moi, j'aimerais beaucoup que vous me disiez, « Ah ben non, ce que tu as fait la dernière fois, là, il y avait quand même un moment trop rapide ou trop léger sur lequel il faut revenir. » Mais donc, alors, par exemple, la prochaine fois, vous pouvez très bien me dire... Ah ben, ton histoire, là, image cinématographique, image de la pensée, c'est quand même pas si clair que ça, il faudrait un peu revenir là-dessus. Alors, ou bien je vous répondrai, ça peut pas être plus clair, hein, tant pis. ou bien je vous répondrai, essayons. Hein. Ou bien c'est vous qui le rendrez plus clair, ce sera encore mon rêve. Alors, voilà. Ça, c'est juste mon point d'attaque. La rencontre se fait-elle? Une fois dit que je viens d'essayer de définir ce que j'appelle l'image de la pensée, une rencontre se fait-elle entre l'image cinématographique et l'image de la pensée? Et si elle se fait, sur quelle base? Voilà. Vous avez bien assimilé ça, tout va bien. Eh bien, on y va. On y va, c'est-à-dire on va construire notre programme à partir de ce problème. Puisqu'on tient un problème. Construisons le programme. En quoi l'image cinématographique peut-elle entrer en rapport avec une image de la pensée? À ce moment-là, comprenez que... Il y aura lieu d'attendre beaucoup de choses, à savoir si elle entre en rapport avec une image de la pensée, sans doute elle l'oriente. Sans doute, l'image cinématographique va se mettre en rapport avec une certaine image bien précise de la pensée qu'elle va elle-même induire. La question va être, est-ce que cette image de la pensée induite par l'image cinématographique recoupe des images de la pensée propres à la philosophie ? Alors, là, je dois partir d'une constatation de fait. Puisque nous construisons un programme, ce programme va contenir les principales indications bibliographiques sur lesquelles je m'appuierai dans l'année et où je voudrais que chacun de vous, mais ça on verra ça quand notre programme sera fini, où chacun de vous prenne un bout, s'intéresse à telle ou telle chose. Et si je fais le programme, c'est parce que ceux qui, cette année, n'ont pas de sujet d'intérêt dans ce que je fais, ne puissent ne pas venir. Et je dis, il y a quand même quelque chose de curieux. Si l'on se reporte à, mettons, les premiers grands pionniers du cinéma. Car les premiers grands pionniers du cinéma ne nous cachent pas que pour eux, le cinéma est une révolution de la pensée. Et à tout égard. Et ce sont les splendides déclarations, soit de Eisenstein, soit de Gans, soit d'Epstein. Je prends les trois plus les ceux qui sont allés le plus loin dans cette voie. Le cinéma comme important, une nouvelle manière de penser. J'y ajoute un pionnier de la critique du cinéma, les trois autres étant des cinéastes, de grands cinéastes, Elifor. Elifor, grand critique d'art, s'affronte au cinéma et y voit l'avènement d'une nouvelle pensée. Bon. Et leur texte nous reste splendide. Mais bizarrement, il faut bien reconnaître que aujourd'hui nous font rire, sourire, avec tendresse et respect et admiration, mais rigoler quand même. On dirait qu'on n'y croit plus. Cette chose si simple qui consiste à considérer que les auteurs de cinéma sont de grands penseurs, est devenue une chose que peu de gens croient. Comment ça se fait? Comment ça peut se faire? Le cinéma, où nous, à la place du cinéma, nous avons renoncé aux ambitions du cinéma premier. Nous saluons les exigences ou les ambitions de Gans, d'Eisenstein, d'Epstein. Mais elles nous paraissent un peu dérisoires. Elles nous paraissent franchement naïves. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut se demander. Voilà un art qui, au début, ne cessait de se situer par rapport à la pensée, et aujourd'hui, si vous comptez dans l'abondante bibliographie du cinéma, quels sont les livres actuels qui portent ou qui engagent le problème des rapports du cinéma et de la pensée? À ma connaissance, vous en trouvez, en tout cas en France, vous en trouvez deux, un point, c'est tout. Vous trouvez le recueil d'articles de Serge Danet, La Rampe. Et vous trouvez le livre très extraordinaire de Schaeffer, L'homme ordinaire du cinéma. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Les pionniers, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Il nous disait qu'à tout égard, le cinéma était apte à révéler, à renouveler la pensée. C'est-à-dire à induire une nouvelle image de la pensée. Je dirais presque de quatre points de vue. D'un point de vue qualitatif, d'un point de vue quantitatif, d'un point de vue relationnel et d'un point de vue modal. C'est bien parce que ce sont les quatre grands titres des catégories chez Kant: qualité, quantité, relation, modalité. D'un point de vue qualitatif, c'était une nouvelle pensée. Nouvelle en quoi? Là, je dois différer de quelques instants ma réponse. Mais c'était une pensée dont on ne trouvait pas l'équivalent dans les autres arts. Du point de vue quantitatif, la réponse m'est donnée immédiatement. C'était un art et une pensée de masse. L'art des masses. Avec le cinéma, le peuple devenait sujet, les masses devenaient sujets de la pensée. Innombrables déclarations des soviétiques à cet égard, de Vertov, de Eisenstein, mais également de Gans. Du point de vue de la relation, le cinéma était langue, mais langue universelle. Du point de vue de la modalité, le cinéma forçait la pensée à sortir de la simple possibilité, possibilité de penser, pour la soumettre à une nécessité. Vous ne pourrez pas ne pas penser. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces grands auteurs soient aujourd'hui traités de naïfs? Ou considérés comme des naïfs? Oh, bien sûr, bien des choses sont passées par là. Je voudrais prendre un exemple. Le cinéma, plus personne ne croit qu'il soit langue universelle. Pourquoi? Entre autres parce qu'une sémiologie d'inspiration linguistique a pris la question en main. Et que la sémiologie d'inspiration linguistique, telle qu'elle fut instaurée par Christian Metz, a voulu attirer, a voulu apporter la rigueur dans ce domaine d'une confrontation langue-cinéma. Bon. Et que cette sémiologie d'inspiration linguistique qui a voulu apporter la rigueur linguistique dans la confrontation du cinéma et de la langue, et du cinéma et du langage, eh bien cette sémiologie d'inspiration linguistique a dénoncé comme naïve, confuse et rapide les assimilations du cinéma à une langue universelle. Me frappe dans la vie comme ailleurs qu'on ne sait jamais qui sont les naïfs. Et après tout, ça fera partie de notre programme de regarder d'un peu plus près ce que les pionniers du cinéma appelaient le cinéma comme langue universelle, pour voir si la sémiologie linguistique n'est pas passée à côté du problème qu'ils posaient alors. et si elle ne représente pas par rapport aux pionniers dits trop naïfs un recul fondamental. Alors, c'est forcé que si nous traitons du cinéma et de la pensée cette année, on aura à voir de très près le problème des rapports cinéma-langage. Mais je ne peux pas dire que ce soit une intervention comme celle de la sémiologie linguistique, ni même comme celle du cinéma parlant, qui a sonné le glas de l'idée d'une pensée universelle. Elle avait été déjà pressentie par un des défenseurs des plus grandes ambitions premières du cinéma, à savoir Elifort. Elifort, dans son livre qui a été, enfin dans son faux livre, puisque c'est un recueil d'articles, qui a été publié dans la collection Médiation sous le titre « Fonction du cinéma », Elifort a un passage assez curieux où il pressent. Il raconte que le cinéma, c'est le successeur de l'art des cathédrales. Il intitule son chapitre ou son article « Mystique du cinéma ». Il nous présente le cinéma comme nouvelle pensée, art des masses, langage, langue universelle, successeur de l'art des cathédrales. Et puis il a un doute, un petit doute. Et je voudrais que vous l'écoutiez bien, ce doute. Des amis sincères, c'est page 51. Des amis sincères du cinéma n'ont vu en lui qu'un admirable instrument de propagande. Il écrit ça très tôt. Soit qu'il dit, Elifort. Vous voyez à quoi ça s'engage. Elifort fait partie de cette grande cohorte des pionniers qui disent pensée nouvelle, langue universelle, art des masses, où les masses deviennent sujets. Et il dit des amis sincères, c'est pas des ennemis du cinéma, des amis sincères du cinéma n'ont vu en lui qu'un instrument, qu'un admirable instrument de propagande. Les pharisiens de la politique, de l'art, des lettres, des sciences même, trouveront dans le cinéma le plus fidèle des serviteurs, jusqu'au jour où, par une intervention mécanique des rôles, jusqu'au jour où, par une interversion mécanique des rôles, il les asservira à son tour. Là, c'est un texte très émouvant, parce que, enfin, vous vous rendez compte ce qu'il est en train de dire ? Il dit, eh bien oui, il y a un danger qui pointe. L'utilisation du cinéma par la propagande. Mais il ne faut pas s'en faire, il ajoute, il faut vraiment être optimiste. Il ne faut pas s'en faire. Parce que par renversement mécanique, c'est le cinéma qui est en mécanique, ça servira. Les pharisiens qui veulent s'en servir comme d'un instrument de propagande. En d'autres termes, ça se fera tout seul. Le cinéma, grâce à sa puissance proprement technique, ne se laissera pas utiliser techniquement. On peut toujours se contenter de ça. On se dit, bon, en même temps, est-ce que ça ne nous met pas sur la voie ? Qu'est-ce qui a fait que les grandes déclarations des pionniers nous paraissent aussi sur le cinéma et la pensée, nous paraissent d'une certaine manière dérisoires ? Justement, dans son livre sur la rampe, Serge Danet le dit très bien. Il dit, eh ben, c'est la propagande d'État. C'est la propagande d'État qui, très vite, s'est emparée du cinéma. À savoir, l'État a trouvé dans le cinéma quelque chose qui lui était fondamental, à savoir la possibilité d'établir et de propager ses grandes mises en scène. L'État metteur en scène avait besoin du cinéma. Et les grandes mises en scène du fascisme les grandes activités d'un État propagande ont asservi le cinéma en ont fait l'étouffement de toute pensée. Et ont annulé complètement. Conformément au court pressentiment d'Elifort, ont annulé complètement les ambitions du cinéma, c'est-à-dire, au lieu que le cinéma fasse des masses son véritable sujet pensant, il a contribué à l'aliénation des masses, à la fascisation des masses. Ce serait ça qui ferait que les grandes déclarations d'Eisenstein, de Gans, d'Epstein, nous paraissent aujourd'hui si belles, mais si démodées, au point qu'on n'ose plus parler d'un rapport cinéma-pensée. D'une certaine manière, la thèse récente de Paul Virilio va plus loin encore que la remarque de Damet. Bien sûr, on peut toujours dire, vous comprenez, on peut toujours dire, ce qui a tué le cinéma, c'est la médiocrité de sa production. Mais encore une fois, c'est pas, oui et non. Que la grande majorité de la production cinématographique soit nulle, archi nulle, c'est évident. Mais c'est pas tellement une objection, ou ça ne l'est qu'à certaines conditions. Je veux dire, ça n'est pas pire qu'ailleurs. Absolument pas pire qu'ailleurs. Si vous considérez le domaine de la littérature et de l'édition, dites-vous bien que ce qui mérite le nom de roman, dans la quantité de romans qui paraissent chaque année, je prends le genre roman, dans la quantité de romans qui paraissent chaque année, ne représente pas 5% de l'édition éditoriale. La grande majorité des romans qui paraissent chaque année appartiennent à la collection Aphrodite et collection du même type, qui occupent les quais de gare, qui occupent les librairies de gare, qui ont un tirage inimaginable et qui n'ont rien à voir de près ni de loin avec ce que vous appelez un roman. Bon. Je ne parle pas du reste, mais le reste, c'est pareil. On ne peut pas dire que la production musicale de la chansonnette, qui est la grande majorité de la production musicale, que cette production soit... situation du cinéma, elle n'est pas pire. Vraiment pas pire qu'ailleurs. Encore une fois, la nullité de la production ambiante a toujours été une loi de toutes les activités dites artistiques. Simplement, on pourrait me dire, peut-être, et là je suis incompétent pour répondre, on pourrait me dire que le cinéma étant, mais on tourne justement à l'idée à laquelle je voudrais venir, qui me paraît l'essentiel pour aujourd'hui, que le cinéma étant un art industriel, la proportion quantitative de la nullité a un rôle infiniment plus grand et dangereux que dans les autres disciplines. et qu'on ne peut pas poser le problème de la même manière au niveau d'un art industriel et au niveau des autres arts. C'est possible, ça. Mais en tout cas, ce n'est pas la médiocrité de la production qui a sonné le glas des ambitions du premier cinéma. Non, c'est pas ça. Il y a eu pire. Si je résumais un peu la thèse de Serge Damet, d'ailleurs, c'est pas la nullité de la production, c'est à la lettre, c'est Leni Riefenstahl, qui, elle, n'était pas nulle, à savoir la cinéaste attitrée d'Hitler, qui a sonné les grandes ambitions du cinéma. Et encore une fois, elle n'était pas nulle. Mais je disais, si je prends la thèse récente de Paul Virilio, il va encore plus loin que Serge Damet. Virilio, dans son livre Logistique de la perception, guerre et cinéma, nous dit à peu près ceci. Ne croyez pas que le cinéma a été détourné de ses buts par l'État propagande, ce que suggère Damet, ou par l'État fasciste. C'est dès le début qu'il y a eu partie liée entre la cinématographie et l'organisation de guerre ou l'organisation fasciste d'État. Là, la thèse est bien parce qu'elle est un peu comme on fait toujours, hein, il faut toujours remonter plus loin, à savoir, ça a mal tourné dès le début. Vous savez, on ne dit plus ça a mal tourné avec Staline. Ah non, ça tournait déjà mal avec Lénine. On ne remonte plus haut, quoi. Et puis, ça ne remonte pas mal avec Lénine. Oh là là, Marx, c'était encore pire. Simplement, il n'a pas pu. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, mais s'il avait fait ce qu'il voulait, qu'est-ce que vous auriez vu que ce serait pire encore. Virilio en mieux, il fait la remontée. C'est dès le début qu'il y a le couplage abominable. Cinéma-guerre et pire, cinéma-organisation de guerre et cinéma-organisation fasciste. Et l'argumentation de Virilio, là, est très intéressante. Elle consiste à nous dire, vous savez, il y a toujours eu un couplage fondamental entre l'arme et l'œil. C'est de ça qui part, le couplage arme-œil. À savoir que le champ de bataille n'est pas simplement un lieu d'action, c'est un domaine de perception. Les armes sont des affects, mais les affects de la guerre ne vont pas. Sont des percepts. Et autant qu'envoyer des armes, il y a dans l'organisation de guerre la nécessité de percevoir des champs. Si bien que un couplage exemplaire, ce sera caméra-mitrailleuse. L'avion mitraille et prend le film de ce qu'il mitraille. Et ce doublet, ce couplage, il est essentiel. Il est essentiel. Et l'histoire de la guerre est non moins une histoire de l'œil qu'une histoire de l'arme. C'est une belle thèse. Et d'une certaine manière, la guerre est une vaste mise en scène. Virilio en veut pour preuve qu'il s'agit moins de cacher. Il s'agit bien de cacher, par exemple. De cacher les organisations secrètes, mais il s'agit surtout de dresser des leurres, faire croire à l'ennemi que telle concentration de troupes se fait, fabriquer des chars en bois qui feront croire à l'ennemi qu'une attaque se dessine par là et préparée par ci, par là. Tout ça, c'est toujours le doublet. Arme mise en scène. Et ce lien fondamental de l'arme et de la mise en scène, c'est ce que les fascistes découvriront les premiers et pousseront jusqu'à un point jusque-là inconnu. Et Virilio, là, commet des accents très réjouis lorsqu'il rappelle que jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême fin, Goebbels voulait rivaliser avec Hollywood et organisait des super-productions. Et que les adjoints de Hitler, notamment au niveau de la défense passive, reconstruisaient des villes avec des colonnes de lumière, fausses villes, villes cinématographiques, villes de pure lumière, architecture de lumière, tout ça. Toute une mise en scène de l'État, de la propagande d'État et de la guerre d'État. En d'autres termes, ce que dit à peu près Virilio, c'est que il y a toujours eu entre Hollywood et le fascisme un lien très bizarre qui fait et qui explique l'écroulement du vieil Hollywood après la guerre. Non pas au sens où Hollywood aurait été compromis dans le fascisme, c'est pas ça, mais au sens où un cinéma tel que le concevait Hollywood avait été réalisé d'une manière infiniment plus parfaite par l'organisation guerre et l'organisation fasciste, au point que nous ne pouvions plus croire à ce cinéma-là. Voilà, de la thèse de Danet à celle de Virilio, il me semble qu'il y a un progrès, une espèce de surenchère, qui nous donnerait une raison, au moins. Pourquoi nous n'oserons plus parler du cinéma comme nouvelle pensée, du cinéma comme art des masses, où les masses seraient devenues sujets, même du cinéma comme langue universelle? Nous avons perdu ces espoirs-là. Seulement, est-ce que ça veut dire que là-dessus, évidemment, une certaine discrétion s'est faite sur le rapport du cinéma avec la pensée. Mais moi, je reprends mon thème. Est-ce que ça ne veut pas dire simplement que le cinéma d'après-guerre rompt avec une certaine image de la pensée que le cinéma avait rencontrée jusqu'alors, mais renoue des noces d'autant plus intéressantes avec une autre image de la pensée? Je demande comment l'on peut ne pas traiter, par exemple, René comme un penseur, Godard comme un penseur, Visconti comme un penseur. On accepte bien d'une certaine manière de les confronter à des peintres. On accepte bien de les confronter à des musiciens. Il faut retrouver la tradition du premier cinéma, compte tenu de toutes les différences, où la confrontation devait passer aussi par le rapport de l'image cinématographique et d'une nouvelle image de la pensée. Peut-être donc que dans sa courte histoire, le cinéma aurait affronté deux images de la pensée très différentes. Ce sera à nous de voir ça. Je vais vous dire, je prends un exemple tout simple. On peut parler des couleurs, par exemple, chez les grands coloristes du cinéma, Antonioni, Visconti, Godard. Bon. Mais on peut parler aussi de leur manière à eux d'être philosophes. On ne prend pas assez au sérieux la pensée des cinéastes. Parce que on sait bien qu'elle ne vaut rien indépendamment du contexte cinématographique de leur œuvre. Si on l'extrait du contexte de leur œuvre, ça ne vaut plus rien. Mais c'est comme ça pour tout le monde. Si vous extrayez la pensée d'un philosophe du contexte philosophique de son œuvre, mais je vous assure, ce sont des platitudes, par définition. Même Renoir, c'est un grand penseur, si vous considérez le contexte de son œuvre, il n'a pas simplement quelque chose à montrer, il a vraiment quelque chose à dire. Et vous voulez que je vous dise, Godard, eh bien c'est un aristotélicien. Je me souviens d'un article très brillant de Sartre sur Giraudoux. Il est repris dans Situation 1, où Sartre explique que Giraudoux, c'est Aristote réalisé. Pourtant, il n'y a aucun lieu de penser que Giraudoux connaissait très bien Aristote. C'était un homme très cultivé, mais enfin, il n'avait peut-être pas lu beaucoup Aristote, sauf au moment du Bachot. Et encore, et pourtant, Sartre, l'article de Sartre est très convaincant. En quoi le monde de Giraudoux est un monde aristotélicien? Là, je fais des transitions faciles. Il se trouve que là, je suis très sensible à la manière dont Godard aime beaucoup Giraudoux. Giraudoux, c'est un des auteurs secrets de Godard. Il l'avoue parfois, puisque dans son dernier film, prénom Carmen, vous vous rappelez que Giraudoux est constamment invoqué, cela s'appelle l'aurore. Et qu'il a toujours eu une espèce de complaisance pour Giraudoux, Godard. Une complaisance inavouée de Suisse, pour lui, c'est l'image de la légèreté en littérature. Mais à la faveur de ça, je dirais qu'il est beaucoup plus aristotélicien que Giraudoux. Et vous savez pourquoi il est aristotélicien, Giraudoux? C'est parce que Aristote, c'est le philosophe qui, précisément en vertu de son cri, il faut bien s'arrêter à le premier énoncé et construit une table des catégories. Or, Edith, là j'ai du souci, où la portée rappelle le type qui vient de... Ça s'annonce mal. J'ai un pressentiment.
Masse amorphe de jambes.
Demande-leur s'ils ont cours.
C'est sympa.
C'est bon ça. Très bon. Le pire arrive.
Ah. Il a trouvé la philosophie.
Alors. Ouais, vous comprenez, je vais lentement, mais qu'est-ce que je disais d'ailleurs? Je sais plus ce que je disais. Godard, c'est un aristotélicien, vous savez pourquoi? À ma connaissance, jamais il n'a construit un film. D'ailleurs, il doit le faire exprès. Lui, Godard, il a beaucoup lu. Alors pourquoi qu'il n'aurait pas lu Aristote en plus, hein? Jamais il n'a construit un film sans, soit explicitement, soit implicitement, le diviser d'après ce qu'il faut appeler des catégories. On verra, ça nous fera un objet, ça nous fera une petite récréation. Parler des catégories chez Aristote, justement à propos de Godard. Mais c'est pour dans longtemps, ça. Toujours, c'est sa division. Simplement, son astuce et ce qui fait notre joie, c'est qu'il invente des tables de catégories tout à fait bizarres. Tout à fait bizarres. Mais c'est des tables... Godard, il n'a pas, pardonnez-moi cette formule un peu facile, mais je crois qu'elle est vraie, fondamentalement. Godard, il n'a pas une table de montage, il a une table des catégories. Et sa table de montage, c'est sa table de catégories. Je prends un film où ça éclate. Sauf qui peut la vie. Vous avez quatre catégories, quatre grandes catégories. Alors on se dit, ah ben alors, ça, faire de ça des catégories, il faut le faire. Hein. Chez Aristote, les catégories, c'était la substance, la qualité, la quantité. Bon. Chez Godard, les quatre grandes catégories de Sauf qui peut la vie, c'est l'imaginaire, la peur, le commerce, la musique. Mais elle joue le rôle explicite de catégorie, à savoir, chez Godard, là j'en dis trop, mais c'est juste pour prendre un exemple, chez Godard, pour fonder un exemple où je voudrais que vous pressentiez la nécessité de confronter le cinéma, non pas seulement avec les autres arts, mais avec la pensée et la philosophie tout court. Chez Godard, les catégories à la lettre peuvent recevoir une définition très stricte, à savoir, ce sont des genres réflexifs dans lesquels se réfléchissent une série d'images. C'est un cinéma sériel, mais les séries d'images se réfléchissent dans un genre réflexif. Le genre réflexif est une catégorie. D'où, pour chaque film, là où il est très ingénieux, très créateur, c'est que pour chaque film, il va refaire une nouvelle table des catégories correspondant au film. Et chaque fois, les images se réfléchiront dans des catégories qui peuvent prendre les figures les plus diverses. En sens, je peux dire à la lettre, vous avez un cours, là ? Je ne comprends pas, ils me disent qu'ils vont dans d'autres salles. Hé, hey, mademoiselle ! Fatigant. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, dans chaque film, il va refaire sa table des catégories. Vous en voulez, en voilà. Évidemment, à charge pour lui qu'elle soit fondée par les séries d'images. Mais les séries d'images vont toujours se réfléchir dans une catégorie. C'est comme ça qu'il brise la narration. Une de ses manières de briser la narration, c'est précisément de faire dépendre les séries d'images d'une catégorie réflexive, c'est-à-dire d'un concept réflexif. Par là, c'est vraiment un rapport cinéma-philosophie. Peu importe, je dis juste, acceptons la thèse de Danet et de Virilio. Les ambitions des premiers pionniers d'unir l'image cinématographique à l'image de la pensée, c'est comme ma seconde conclusion. Les ambitions de ces premiers pionniers d'unir l'image philosophique et l'image de la pensée, l'image cinématographique et l'image de la pensée, a pu s'effondrer pour des raisons historico-mondiales qui sont la propagande d'État et le fascisme. On ne pouvait plus croire à l'art des masses et à la pensée nouvelle telle qu'elle avait été définie par les pionniers, et à la langue universelle. Mais ça n'était qu'un rebondissement. Le nouveau cinéma, le cinéma d'après-guerre, allait entrer l'image cinématographique nouvelle. En quoi nouvelle ? Ça, on l'a un peu vu les autres années. L'image cinématographique nouvelle allait entrer avec l'image de la pensée dans de tout nouveaux rapports. Et pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est parce que l'image de la pensée avait elle-même subi le même choc. C'est que la propagande d'État, le fascisme, l'organisation du fascisme, si elle n'avait pas laissé intacte l'image cinématographique, n'avait pas davantage laissé intacte l'image philosophique de la pensée. Et que, sur la base de ces doubles décombres, pouvait se renouer une nouvelle alliance entre la nouvelle image cinématographique et la nouvelle image de la pensée. Qu'est-ce que serait cette nouvelle image de la pensée? Qu'est-ce que serait la nouvelle image cinématographique? Qu'est-ce qu'était l'ancienne, les deux anciennes? Tout ça, ça fera partie aussi de notre programme.